Notre dernière étude sur Marc. Oui, le livre s'arrête avec la résurrection de Jésus. On est loin de la Pâque. Hein. La Pâque, c'était il y a quelques temps. Mais j'ai le souvenir d'avoir eu l'occasion de fêter la Pâque avec des anglophones, des missionnaires anglophones. Alors, je ne sais pas si c'est une tradition aux États-Unis, au Royaume-Uni. Je n'ai pas trouvé, en tout cas. Mais le dimanche matin de la Pâque, on est parti super tôt. On est allé en haut d'une montagne, on a regardé le lever du soleil, et puis là, on a loué le Seigneur. Comme si, voilà, il y avait quelque chose de nouveau une nouvelle journée qui était là. Et en souvenir de cette Pâque, du moment où Jésus est ressuscité, j'ai trouvé ce moment juste magique. Puis après, on est descendu, on a pris un bon petit déjeuner tous ensemble. Mais j'ai trouvé cette image vraiment belle de se dire, ben voilà, on est là où le jour se lève, où il y a Jésus est ressuscité, il y a quelque chose de nouveau là qui est venu, qui est apparu. Et de se remémorer ça dans ces conditions-là, ça m'a marqué tout simplement. Justement, nous allons lire le texte de ce matin, Marc 15, les versets 42 jusqu'à 16, le verset 8. J'ai pris la version du semeur. Le soir venu, c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Donc c'est après la crucifixion de Jésus, après sa mort. Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du grand conseil qui lui aussi vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il fit appeler l'officier de service et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il autorisa Joseph à disposer du corps. Celui-ci, après avoir acheté un drap de lin, descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau taillé dans le roc. Puis il roula un bloc de pierre devant l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de Jos, regardez où il le mettait. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt le dimanche matin, lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil se levait. En chemin, elles s'étaient demandées les unes aux autres, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté et c'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent, assis du côté droit, un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Mais le jeune homme leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. » Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Jésus se montra à Marie de Magdala. Elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. On va arrêter là la lecture. En fait, en lisant ce même récit dans les différents évangiles, on remarque que les auteurs ont abordé cet événement différemment, chacun à sa manière. Matthieu, il va en parler en donnant plus de détails spectaculaires et des faits qui attestent vraiment de la résurrection de Jésus, comme des tremblements de terre, même quand la pierre a été roulée, apparemment, il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Luc, lui, va surtout décrire comment les événements se sont passés. Très factuel. Et puis Jean, il va plutôt témoigner directement de comment lui, il a aussi vécu cet événement. Chacun va retranscrire cet événement historique à sa manière. Ça bouge un peu, c'est pas... En lisant Marc, en fait, ce sont différentes réactions qui m'ont interpellée. Marc, il a fait mention de ces détails dans son livre et j'ai trouvé intéressant de les relever aujourd'hui. Marc, il parle du courage de Joseph. Il parle de la surprise de Pilate. On en avait parlé lors de la dernière prédication. Et il parle du bouleversement des femmes. Le courage de Joseph. On va commencer par cette première partie-là. Dans les autres évangiles, on apprend que Joseph était un disciple de Jésus, qu'il fait aussi partie des autorités juives. Mais il n'avait pas pris part aux décisions de la fin de la vie de Jésus, de son exécution. Il était de ceux qui attendaient le royaume de Dieu, comme on l'a lu dans notre passage. Matthieu, il le décrit comme quelqu'un étant de bon, de juste. Jean précisera d'ailleurs que Nicodème était aussi avec lui pour mettre Jésus au tombeau. Marc dit qu'il a eu le courage de demander le corps à Pilate. Effectivement, Joseph, en allant adresser cette demande à Pilate, il allait se montrer, il allait montrer publiquement qu'il suivait Jésus. Peut-être que ça n'avait pas été le cas jusqu'à aujourd'hui. Et il était prêt à le faire, à se dévoiler pour honorer son maître. Il avait beaucoup à perdre en s'affichant de la sorte. Jésus, si on se rappelle, c'est pas le plus populaire à ce moment-là. Il était vu comme un imposteur qui voulait soulever les foules contre les autorités. Il était considéré un peu comme un rebelle, finalement, si on le transpose aujourd'hui, parce qu'il faisait peur, parce qu'il était incontrôlable, parce qu'on n'avait pas de pouvoir sur lui. Alors peut-être que Joseph pouvait perdre son poste, très certainement d'ailleurs, voire sa réputation aussi en s'affichant ouvertement, sans doute perdre ses amitiés, ses relations. Mais cela ne va pas l'empêcher de demander courageusement le corps à Pilate. Il ne souhaite pas que celui qu'il admire reste pendu, inerte, sur cette croix. Il veut lui rendre un minimum de dignité. Il veut prendre le corps de Jésus pour le mettre dans un tombeau, dans un caveau, si on peut dire aujourd'hui. D'ailleurs, le caveau que Joseph a trouvé n'a pas encore été utilisé. Il a pris le meilleur pour le Seigneur. D'ailleurs, si on réfléchit, en étant sur cette croix, en étant un corps inerte, Jésus, il laisse ses disciples prendre le relais pour l'amener jusqu'au tombeau. Il est complètement dépendant. Heureusement d'ailleurs que Joseph a anticipé, il a réfléchi à cela avant la fin de la journée, parce qu'il y a le sabbat qui arrive, il a sans doute été inspiré par le Seigneur pour cela. Le sabbat allait commencer le soir même, et il savait bien qu'il ne pourrait rien faire pendant les prochaines heures qui allaient suivre. Donc il a fait tout ce qu'il fallait pour que le corps de Jésus soit en lieu sûr et repose en paix. Ce qu'il voulait, c'était offrir à Jésus, à ce moment-là, ce qu'il voulait lui offrir, c'était bien plus grand que tout ce qu'il pouvait perdre. Il a eu ce courage-là d'affronter les hommes, d'affronter le regard des hommes. Le courage de Joseph. Et puis il y a eu la surprise de Pilate, en réponse à cette demande de Joseph. La deuxième réaction, donc, c'est cette surprise qu'a Pilate, et on pourrait se dire, mais d'où vient cette surprise? Pourquoi Pilate est surpris que Jésus soit mort? Il a été crucifié. Mais en lisant divers commentaires sur ce passage, j'ai appris que les personnes qui étaient mises sur les croix comme ça pouvaient agoniser, si on peut dire, pendant plusieurs jours. Elles pouvaient rester attachées sur la croix longtemps avant de mourir. D'où la surprise de Pilate quand Joseph arrive l'après-midi même pour lui demander le corps de Jésus. Il ne s'attendait pas à ce qu'un condamné soit déjà mort. Jésus, si on peut dire, il n'a mis que 6 heures pour mourir. Ça fait drôle de dire ça, mais c'est vrai qu'avec toutes les tortures qu'il a subies avant la crucifixion, peut-être que ça a déjà bien affaibli son corps. Mais pour moi, la raison principale, comme on l'a déjà vu la dernière fois, c'est que Jésus, après avoir subi ce qu'il devait subir, après avoir été séparé de Dieu, c'est lui qui a décidé de remettre son esprit entre les mains de Dieu. Il a lui-même décidé à quel moment il donnerait son dernier souffle. C'était vraiment un acte volontaire de sa part. Il a choisi de partir avant le sabbat, entre 15h et le coucher du soleil, du coup. Il restait suffisamment de temps à Joseph pour faire tout ce qu'il avait à faire avant le sabbat. Du coup, devant ce constat-là, Pilate veut vérifier l'information avant de laisser le corps, et il a raison. Ça donne une preuve supplémentaire, historique, de dire « Jésus est bien mort, même les officiers romains l'ont attesté ». On ne peut pas reprocher à Pilate d'avoir laissé le corps peut-être encore un peu vivant à ses disciples, non. Tout le monde, en tout cas ceux qui étaient là, ont attesté qu'il était bien mort. La Bible nous confirme que Jésus était mort par le biais de ces Romains. Autre petit détail, Pilate aurait pu profiter du statut élevé de Joseph, c'était un homme riche, pour monnayer le corps de Jésus, mais là, encore une fois, il ne l'a pas fait. Apparemment, c'était une pratique qui se faisait à l'époque, demander de l'argent en échange du corps du condamné. Mais pour le coup, il autorise Joseph à disposer du corps sans réserve. Et c'est Joseph qui va se charger de descendre ce corps de la croix, qui va l'enrouler dans un tissu et qui va le mettre dans le tombeau. Et je me suis dit qu'une fois tout cet épisode terminé, Pilate vraiment a dû se dire que se condamner à mort, quand même, il y avait quelque chose de particulier avec lui, quoi. Déjà, Pilate ne voulait pas vraiment le condamner. Il ne comprenait pas pourquoi les Juifs voulaient sa mort. Mais il leur a quand même laissé, par peur de la foule. Et même symboliquement, il a voulu se laver les mains pour enlever, enfin pour pas prendre la responsabilité de cette mort-là. Et puis, même s'il n'était pas devant la croix, il a seulement dû voir cet après-midi-là qu'il y a eu ces ténèbres, qu'il y a eu ces tremblements de terre. Que, enfin, voilà, tout cela n'a pas laissé indifférent, j'imagine. Il y avait trop d'éléments inhabituels, finalement, dans cette affaire, quoi. Puis que Jésus soit mort avant les délais habituels. Ça a dû l'interpeller. S'il aurait été vraiment celui qu'il prétendait être, pourquoi ne pas se sortir de là, finalement ? Et voilà, peut-être c'est des questions qu'il a dû se poser, j'en sais rien. Ça fait beaucoup, en tout cas. Il est surpris. Il est surpris que Jésus ne soit déjà plus là. Et puis, après le courage, la surprise, eh ben, il y a le bouleversement des femmes. Le texte nous dit qu'il y a quelques femmes qui ont assisté à toute la scène. Nous ne savons pas combien elles étaient, mais en tout cas, parmi elles, il y avait au moins Marie de Magdala. Marie, la mère de Jos et de Jacques, et puis Salomé. Marie de Magdala, c'était celle que Jésus a délivrée de 7 démons. J'imagine qu'elle devait avoir un attachement tout particulier à son maître, parce qu'elle savait d'où elle venait, elle savait ce qu'elle avait vécu comme libération, tout ce qu'il avait fait pour elle, et elle était là. Il y avait aussi Marie, donc la mère de Jos et la mère de Jacques, le mineur. Ces deux fils devaient être importants au sein du groupe pour que leur nom soit mentionné. Ils faisaient partie du cercle élargi des disciples. Elle était là aussi. Et puis Salomé. Salomé, c'est la mère de Zébédée. C'est la femme de Zébédée, pardon, la mère de Jacques et de Jean. Deux des trois disciples qui étaient les plus proches de Jésus. Pierre était le dernier. Et d'ailleurs, c'est cette Salomé qui avait demandé à Jésus si ses deux fils pouvaient siéger l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. C'est cette demande, elle était venue des fils. Ils ont dû estimer que leur mère était suffisamment influente pour faire une telle proposition à Jésus. En tout cas, elles étaient là. Elles sont venues de Galilée, le texte nous précise cela, avec Jésus. Donc, elles ne sont pas du coin, elles se sont déplacées pour le suivre. Elles avaient l'habitude d'être avec lui, de le servir. C'était un peu une vie de nomade hein, avec les disciples qu'elles avaient choisi, finalement, tout le groupe de Jésus qui les suivait pendant ces 3 années de ministère. Et voilà qu'elle se retrouve à Jérusalem en train d'être séparée de son maître. Après avoir assisté à la mort de Jésus et à tous les événements spectaculaires de l'après-midi, elles sont encore là, à observer ce qui allait se passer. À leur place, j'imagine qu'une fois Jésus mort, je serais certainement partie, sachant pas trop quoi faire, déboussolée, voilà. D'ailleurs, les disciples... On n'en parle pas pendant ce temps-là, à part Jean qui était avec les femmes, mais il n'est pas fait de mention de la présence des autres à ce moment-là. Les femmes, elles vont attendre de savoir où Jésus allait être enterré. Elles ne voulaient pas le quitter des yeux jusqu'au bout. Elles avaient conscience que le sabbat arrivait aussi et qu'elles ne pourraient pas se déplacer ce jour-là. Donc c'était important pour elles. Ce qui était important pour elles à ce moment-là, c'est de savoir où est-ce qu'elles allaient pouvoir le retrouver. Pour pouvoir le parfumer, comme le demandait la tradition juive. Elles ont anticipé et elles ont attendu. Je ne savais pas s'il y avait beaucoup de monde, mais en tout cas, elles ont assisté à l'enterrement, ou plutôt à l'ensevelissement de Jésus. Trop compliqué. Ensuite, leur plan allait se dérouler après le sabbat. Après le jour du repos, d'ailleurs, le sabbat, c'est aussi symboliquement le jour de la délivrance du peuple, du peuple juif en Israël, en Égypte. Délivrance de Jésus aussi. Elles ont à cœur de continuer de le servir, alors comme elles avaient l'habitude de le faire. Donc une fois que le sabbat a été terminé, elles se sont levées de bon matin et elles sont parties au tombeau, prendre soin du corps de Jésus. Sur le chemin, elles s'inquiètent d'une question toute pratique, à savoir... comment rouler cette pierre ? Sinon, elles sont venues pour rien. Elles vont devoir attendre ou rebrousser chemin. Finalement, pas d'inquiétude à avoir plus que ça, parce qu'en arrivant, la pierre est déjà roulée. Est-ce que quelqu'un est venu déjà avant elle ? Bon, premier point un peu surprenant, mais bon, qui sait ? D'autres étaient déjà passés avant. Deuxième point surprenant, c'est qu'elles ne trouvent pas le corps de Jésus. Il n'est plus là. Pourtant, elles l'ont vu. Elles étaient là jusqu'au bout. À la place, elles rencontrent un ange qui leur dit qu'il est vivant et qui leur dit qu'il les attend en Galilée. Complètement fou. Elles ont vu de leurs propres yeux un Jésus qui était mort, qui était enterré exactement au même endroit, deux nuits avant. Et là, aujourd'hui, il n'est plus là. Et on leur dit qu'il les attend en Galilée. C'est complètement surnaturel ce qui est en train de se passer. Elles vont de surprise en surprise, ou plutôt d'incompréhension en incompréhension, à tel point que c'est la peur et l'effroi qui prend le dessus. Quand elles s'aperçoivent l'ange, elles sont saisies de frayeur. Dans certaines versions, on voit elles sont épouvantées. C'est fort quand même comme réaction. C'est, voilà, saisie de frayeur. Comment est-ce qu'elles ont réussi à enregistrer les paroles de l'ange à ce moment-là ? Je ne sais pas. Mais quand on est pris de peur, qu'il y a la panique qui est là, et c'est difficile d'être attentif finalement à ce qui se passe autour de nous. C'est comme si notre cerveau, il n'arrivait plus à réfléchir à quoi que ce soit. La seule envie à ce moment-là, c'est de fuir. Et c'est d'ailleurs ce qu'elles vont faire. Comme Marc nous le dit, elles s'enfuient, tremblantes et bouleversées. Et Marc termine le récit en nous précisant qu'elles ne dirent rien à personne tant elles étaient effrayées. On sait quand même qu'elles ont réussi à le faire par la suite. Elles vont le dire aux disciples. Mais dans l'immédiat, ce n'était pas possible. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'elles étaient en état de choc, traumatisées. Elles ont vécu quelque chose là de traumatisant. Voilà la réaction qu'a provoqué l'annonce de la résurrection de Jésus à ces femmes. Elles sont complètement retournées, chamboulées, bouleversées. Et la joie a certainement pris le dessus après, quand elles ont vraiment réalisé ce qui s'était passé. Celui qu'elles ont vu être mis dans un caveau, il n'est plus là. Celui qu'elles ont vu mourir, finalement, il n'est pas mort. Dans la version du semeur, comme on l'a lu, mais dans les autres versions, on ne trouve pas non plus. Marc précise que Jésus va apparaître à Marie de Magdala. Il y avait juste ces versets. Et puis Jean, il va détailler davantage la scène en racontant que Marie a confondu Jésus avec le jardinier. Et elle va lui reprocher d'avoir pris son corps. Vraiment, Jésus, il n'est pas là où on l'attend. Il surprend tout le monde. Après ces versets, dans Marc, il y a quand même encore une suite, mais les derniers versets que l'on trouve dans l'évangile de Marc posent beaucoup de questions. Ils ne sont pas présents dans certains écrits principaux, donc voilà, on les prend un peu plus... on va pas nous les étudier. Et si on s'arrête à ce passage, justement, on pourrait penser que l'auteur nous laisse... un peu en suspens, avec ces femmes qui s'enfuient. Et peut-être cette question aussi qui nous laisse, et vous, comment est-ce que vous allez accueillir cette résurrection du Seigneur, cette bonne nouvelle ? Comment est-ce que vous allez réagir à ça ? Il s'arrête comme ça, il n'en dit pas plus. Est-ce qu'on va réagir avec effroi, avec surprise, avec étonnement, avec émerveillement, avec stupéfaction ? Comme j'ai dit, dans les autres évangiles, finalement, on voit que ces femmes vont quand même parler et que d'autres iront au tombeau, voir ce qui se passe. Mais nous, aujourd'hui, comment est-ce que cette résurrection-là nous interpelle ? Et j'avoue, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis rendu compte que, personnellement, parfois, j'ai vraiment tendance à banaliser. Banaliser ce qu'il a fait pour nous. Bien sûr, il nous a sauvés parce qu'il nous aime, parce que sa grâce et son pardon, ils sont immenses. Mais j'ai tendance à plus me rendre compte que finalement, moi-même, j'ai échappé à la mort parce que lui, il est mort pour moi. Que mon péché n'est pas si grave que ça. Que Jésus était tout à fait capable de ressusciter. Finalement, pour lui, mourir, voilà, il est mort, mais il savait qu'après, il vivrait à nouveau. Que c'était qu'un passage à franchir, un mauvais moment à passer. Il savait d'avance qu'il allait retourner vers son père. que peut-être c'était pas si compliqué que ça. Bien sûr, tout ça est faux. Et je dois m'en convaincre. Banaliser m'amène à minimiser ce que lui a fait. Finalement, c'est quand même le fondement de notre foi chrétienne. Paul, d'ailleurs, va le dire, hein, si Christ n'est pas ressuscité, ben, on est les plus malheureux qu'il y a sur la terre. Parce que notre foi, elle repose essentiellement là-dessus, sur un Christ qui est vivant, sur un Dieu qui est allé jusqu'au bout, qui a tout fait et qui aujourd'hui est vivant. Et un Christ qui est capable, qui a une puissance infinie. C'est la puissance de Dieu dans toute sa splendeur, cette résurrection. C'est la puissance que tant de personnes, quand Jésus était sur terre, attendaient en disant « Vas-y, montre-nous les miracles que tu sais faire » ou « Descends de la croix ». Et bien, là, elle s'est manifestée. Tant de gens voulaient la voir. Et bien, cette puissance, elle est là, dans cette résurrection-là. On va lire ce passage aussi d'Éphésiens 1, verset 19. C'est intéressant, c'était aussi une prédication que j'avais été amenée à faire sur la prière que Paul faisait aux Éphésiens. Et puis, il parlait de l'extraordinaire grandeur de sa puissance. Et j'aimerais lire à partir de la moitié du verset. « Cette puissance, en effet, il a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. » C'est vraiment ce moment crucial où il y a vraiment toute la puissance de Dieu qui se manifeste. À ce moment-là, cette puissance, elle a quand même le pouvoir de ramener à la vie quelque chose qui est mort, quelqu'un qui est mort. Elle a le pouvoir de redonner le souffle à un corps qui est inerte. Elle a le pouvoir de recréer quelque chose de plus beau encore à partir de l'ancien. Et ce plus beau, il est éternel, il est immortel, il est pur, il est intouchable, dans le sens où plus rien ne peut le détruire, quoi. Ça, c'est du glorifié. Et c'est ça qui est devenu Jésus quand il est ressuscité. Il n'est pas simplement revenu juste à la vie, il n'a pas juste retrouvé la vie, mais son corps a été transformé en un corps glorifié, quoi. Éternel, immortel, pur, intouchable. Il est passé par là pour nous ouvrir aussi, nous, le chemin, et nous aussi, on va passer par là. Nous qui avons été sauvés, nous allons aussi à notre tour, un jour, avoir un corps glorifié, éternel, immortel, pur. Intouchable. C'est vraiment là que se manifeste pleinement toute la puissance de Dieu, cette puissance créatrice, cette puissance qui appartient qu'à Dieu, quoi. Et ce jour-là, une fois que Jésus sera revenu, que le jugement sera prononcé, il n'y a pas que nous, les êtres humains, qui allons avoir un corps glorifié, mais il y a aussi toute la création, absolument toute la création va être transformée. Elle va aussi revivre à son tour notre chère planète qui aujourd'hui... subit toutes les conséquences du choix des êtres humains, et ben elle aussi, elle va retrouver une seconde jeunesse, si on peut dire. Plus rien ne pourra l'abîmer. Elle sera à jamais purifiée. Et on sera tous réconciliés avec Dieu. Et prêts pour être continuellement en sa présence. Et tout cela commence avec la résurrection de Jésus. Il a ouvert le chemin pour nous. Alors après le courage de Joseph, après la surprise de Pilate, le traumatisme des femmes, quelle va être nous, notre réaction face à la résurrection de Jésus? Qu'est-ce qu'elle évoque pour nous? Qu'est-ce que cela change pour nous finalement au quotidien? Et je dois avouer que quand j'ai fait le constat que j'avais tendance peut-être à minimiser ce qui s'était passé, j'en ai pleuré devant le Seigneur. Et je me dis, en tant qu'être humain, on a vraiment du mal parfois à réaliser combien cette puissance est immense. Alors que Dieu nous aide à réaliser toujours davantage quel Dieu il est, combien sa puissance est immense et son amour infini pour sa création. Et simplement que nous soyons conscients aussi qu'aujourd'hui, cette puissance créatrice, elle est là aussi pour nous, avec son esprit qui est là, qui peut nous transformer. Même si aujourd'hui, on n'a pas ce corps glorifié encore, mais cette petite graine d'éternité qui est déjà dans nous, qui est déjà en nous, qui est déjà dans notre corps, qui est déjà là et qui commence déjà son œuvre. Merci Seigneur de pouvoir nous permettre cela dès aujourd'hui. Je vous invite à prier pour terminer. Seigneur, quoi dire devant tant de puissance, quoi dire devant tant de majesté, de grandeur, d'immensité. Merci d'être venu sur la croix, merci de nous avoir manifesté combien tu peux tout, absolument tout, Seigneur. Et combien tu as un plan merveilleux aussi pour nous d'un jour avoir ton peuple avec toi, pur, immortel, glorifié. Merci de nous montrer ce chemin-là, Seigneur, et de nous permettre de pouvoir avoir ce magnifique horizon devant nos yeux. Que toute la gloire, vraiment toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.